Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler des CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ? Notre sujet principal sera aujourd'hui consacré à ce mouvement d'éducation populaire et à la place du logiciel libre dans son action. Également au programme, un hommage à Wikipédia à l'occasion de ses 20 ans, et aussi une sombre affaire de complotisme et d'intelligence artificielle. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes le 28 septembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isa. Salut Isa.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Le 15 janvier 2021, Wikipédia fêtait ses 20 ans. Est-il d'ailleurs encore besoin de présenter cette incroyable encyclopédie en ligne, entièrement collaborative et librement accessible ? Aujourd'hui, dans sa chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », Marie-Odile Morandi a décidé de rendre hommage à Wikipédia. Salut Marie-Odile.
Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
Bah, à toi la parole.
Merci. Chaque semaine, un membre de l'April, Emmanuel Charpentier, publie une revue de presse. Dans la revue de presse de la semaine 29, parue au mois de juillet, il nous propose la lecture d'un article intitulé « Le cofondateur de Wikipédia avoue lui-même ne plus avoir confiance en l'encyclopédie en ligne ». On y trouve les informations que l'on veut bien nous donner, estime Larry Sanger. Le titre et la lecture de cet article m'ont laissé perplexe. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous parler de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne mondiale qui a fêté ses 20 ans au début de cette année 2021. Diverses transcriptions ont été réalisées depuis janvier concernant Wikipédia et vous retrouverez les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui. Wikipédia a été lancé le 15 janvier 2001 suite au projet utopique quasiment fou de Jimmy Wales et justement de Larry Sanger de vouloir mettre à disposition de l'entièreté de l'humanité l'intégralité du savoir humain. À ses débuts, la réputation de l'encyclopédie était plutôt négative, en particulier dans le monde de l'éducation. Elle était considérée comme le temple du n'importe quoi, des inexactitudes et de l'approximation. Elle était critiquée, voire méprisée par certains et certaines qui n'ont compris son fonctionnement que plus tard. Pourtant, le succès est arrivé. L'encyclopédie s'est imposée comme un outil de travail et de recherche pour bon nombre d'entre nous. Wikipédia est devenu indispensable, l'un des sites les plus riches et les plus consultés, 500 millions de visiteurs chaque jour, le cinquième site le plus visité au monde. Ce succès est dû à l'hyperlien, invention dont Diderot et d'Alembert auraient sans doute été friands. On peut ainsi bondir d'article en article, alors que l'on ne savait même pas que les sujets qui y sont traités pouvaient nous intéresser, favorisant ainsi une incomparable expérience de découverte de la connaissance. L'encyclopédie est complètement autogérée par les contributeurs et contributrices qui participent, 100 000 par jour, se partagent le pouvoir et sont bénévoles. Wikipédia, contrairement à beaucoup de structures dans notre société, n'a pas de rédacteur en chef, pas de patron. C'est probablement aussi l'un des rares endroits sur Internet où il n'y a pas de publicité. Il n'y a ainsi personne sur qui faire pression, ce qui garantit l'indépendance de l'encyclopédie. La communauté des contributeurs a réussi à mettre en place des pratiques, des façons de collaborer qui ont grandement amélioré l'encyclopédie et qui font qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus fiable. Beaucoup de contributeurs deviennent des experts de sujets au fur et à mesure qu'ils approfondissent un article qu'ils souhaitent créer ou auquel ils souhaitent participer. Et cela ne manque pas de questionner la place de l'expert dans la diffusion des savoirs. Le but de Wikipédia, c'est d'écrire de manière neutre en citant des sources publiques, vérifiables, donc un article scientifique, une publication, un article dans un journal grand public. Il s'agit de rapporter juste ce que l'on sait sur un sujet, c'est-à-dire les faits, les différents points de vue. C'est une synthèse du savoir existant. Ensuite, libre à chacun, quand il lit une information, de se faire son avis, d'exercer son esprit critique, d'aller voir les références, de vérifier les sources. Un effort de réflexion est ainsi requis. Le principe de fonctionnement est collaboratif et participatif. Que ce soit pour rédiger les articles ou pour définir les règles de la communauté, il y a recherche d'un compromis, ce qui amène beaucoup de discussions. Wikipédia est un endroit où des gens de tous horizons, qui ont des tendances politiques différentes, des cultures différentes, arrivent à discuter pour chercher, puis trouver un consensus et des formulations qui soient neutres, sur lesquelles ils vont pouvoir tous être d'accord, quelle que soit leur opinion, pour réussir à cerner une sorte de vérité sur un sujet. L'encyclopédie est modifiable très facilement. Elle est corrigée, complétée, recorrigée en permanence. Mais ne nous y trompons pas, certains contributeurs sont particulièrement attentifs, vigilent au respect des règles et des principes de fonctionnement. Grâce à l'onglet historique, il est possible de suivre toutes les contributions, quelles sont les personnes qui les ont faites et quand. Des logiciels automatisés ou semi-automatisés détectent les actes de vandalisme, les essais de publicité même à l'intérieur d'articles et ils sont alors supprimés en très peu de temps. Wikipédia est entièrement sous licence libre, la GNU General Public License. N'importe qui peut, aujourd'hui, copier tout ce qu'il y a dans Wikipédia, se créer sa propre encyclopédie personnelle, imprimer le livre de l'ensemble des articles et le vendre. La seule condition, c'est de citer les auteurs, et ça en fait beaucoup à citer. La fondation Wikimedia, qui se situe aux États-Unis, héberge tous les Wikipédias, mais n'est pas propriétaire des articles et n'intervient pas au sujet du contenu éditorial. Wikipédia est disponible en 300 langues. Ainsi, l'encyclopédie n'incarne pas une vision du monde, mais 300 visions du monde. Un tel succès entraîne aussi de lourdes responsabilités. Les sources sont indiquées, doivent passer avant tout, leur traçabilité doit être garantie. Wikipédia a fait le pari de la transparence, un bandeau d'avertissement est apposé sur les articles jugés insuffisants ou sur lesquels il y aurait des controverses de neutralité. Non seulement sur Wikipédia sont publiés de nouveaux articles en fonction de l'actualité, mais surtout, des articles déjà existants sont actualisés en fonction des événements en cours, et cela de manière très rapide, tout en prévenant le lecteur que les informations ne sont pas forcément tout à fait justes ou avérées. Ainsi, si on veut toucher à la réalité d'un personnage ou d'un phénomène, non seulement il faut lire la fiche Wikipédia, mais il faut accepter de revenir la lire un mois plus tard, un an plus tard et pourquoi pas un siècle plus tard. Wikipédia réalise depuis 20 ans, à l'échelle planétaire, le projet encyclopédique des Lumières avec en plus sa gratuité. Cependant, des pans entiers de savoir et de culture manquent. En effet, les articles sont écrits en majorité dans les langues principales, ce qui crée des biais linguistiques. À cause du manque de diversité des contributeurs, beaucoup plus d'hommes que de femmes, les biais de genre restent importants. On compte 500 000 biographies de personnes sur Wikipédia, mais moins de 20% sont des biographies de femmes. une des missions de Wikimedia France est d'inciter les gens à contribuer, en tout cas de leur en donner les moyens. Plus de personnes participeront, contribueront, plus cela permettra au projet de remédier aux biais soulignés. Wikipédia est une encyclopédie gratuite, libre. Elle est restée fidèle à ses principes, même si son modèle économique est en train d'évoluer, ce que vous découvrirez à la lecture de transcriptions. Elle a réussi à s'installer comme une référence en prenant une place très spécifique dans le monde numérique. La culture qu'elle nous offre permet à chacun et chacune d'évoluer en tant que personne, d'être plus ouvert aux différents points de vue. Pour terminer de façon un peu cavalière, puis-je me permettre de conseiller à nos auditeurs et auditrices, à tous les acteurs du monde de l'éducation et aussi à Larry Sanger, de lire ou relire les transcriptions qui ont été réalisées par notre groupe pour les 20 ans de Wikipédia. C'est son projet, sa création, un modèle de service non commercial, sous licence libre, dont il peut être fier. Excellent anniversaire et longue vie à Wikipédia.
Merci beaucoup Marie-Odile, et je pense qu'on peut aussi être fier de l'April et particulièrement de ce groupe Transcription pour l'incroyable travail réalisé. Et j'ai trouvé très intéressant, alors je ne sais pas si on peut parler des limites de l'exercice, mais de l'importance de la vigilance que tu évoquais sur les différents biais qui peuvent exister, parce qu'effectivement il y a un souci de neutralité, mais Wikipédia, dans toute son importance, reste un objet politique extrêmement important, et notamment parce qu'il participe à la transmission des savoirs. Merci beaucoup Marie-Odile, et un autre remerciement, parce que tu m'as rappelé quelque chose, un petit plaisir auquel je m'ai donné il y a quelques années de parcourir un peu des articles avec l'option aléatoire et tomber, découvrir des choses comme ça de Wikipédia. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez plaisant à faire, que j'invite d'ailleurs les auditrices et auditeurs à faire à l'occasion.
Voilà, et aussi à participer pour ceux qui en ont le temps et l'envie.
Bien sûr, il y a différentes manières de collaborer, participer, et sans y passer forcément des heures par semaine. Je pense que c'est une communauté qui est assez accueillante et bienveillante, et on peut collaborer à la hauteur de ses capacités et de ses envies. Un bon rappel utile, effectivement. Merci beaucoup Marie-Odile, et je te dis, j'espère, au mois prochain pour une prochaine chronique.
Entendu. À la prochaine fois. Bonne fin d'émission.
Merci Marie-Odile. Nous allons faire une courte pause musicale. Nous allons écouter 29 Years par Dishtones. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
I'm 29 years old.
With stupidity. My people have learned to live without it.
I'm 29 years old.
I'm impatient with stupidity. My people have learned to live without it. Thank you.
Recent expeditions have been dubbed for sound, with its wide variety of liquid notes and artistically placed clicks and bell-like sounds are enhanced in the mating season by repeated resonant booms.
Nous venons d'écouter 29 Years par The Dishtones, disponible sous licence libre GNU GPL, donc pas forcément la plus habituelle pour les musiques, mais pourquoi pas, et donc la même licence, vous l'aurez reconnu, qu'utilisée pour Wikipédia.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA, et leurs pratiques autour du logiciel libre. J'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Jean-Luc Cazaillon, ancien directeur général et militant au CMEA, et Morgane Perroche, permanent des CMEA, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Également avec moi en studio, Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur, un des chroniqueurs de Libre à vous, avec qui j'aurai le plaisir de co-animer cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Eh bien, je vous propose de commencer, somme toute, de manière très classique, par un tour de table de présentation. Jean-Luc Cazaillon, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être, en quelques mots ?
Oui, donc...
Ou te présenter, je pense qu'on peut se tutoyer,
on
d'ailleurs.
On peut se tutoyer, ouais. Tout à fait. Donc, voilà, Jean-Luc Cazaillon, je suis effectivement ancien directeur général des CMEA. J'ai quitté mes fonctions au 1er septembre dernier. Mon parcours professionnel, c'est d'abord d'être enseignant. J'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années. Et puis, ensuite, permanent des CMEA, d'abord en Haute-Normandie, où j'ai assumé les fonctions de directeur des CMEA de Haute-Normandie, de Rouen, donc, et puis ensuite une arrivée à Paris en 2004.
Morgane Perroche, bonjour.
Bonjour. Alors moi, mes débuts avec les CMEA, ça a commencé par la Fédération internationale des CMEA, donc qui regroupe une quarantaine d'associations des CMEA à travers le monde. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré du coup les CMEA France, avec, qui est mon étiquette aujourd'hui, puisque je travaille avec les CMEA France depuis maintenant janvier 2021, officiellement, et notamment sur la dimension européenne et internationale des CMEA.
Super. Laurent, toi, tu es membre du CA de l'April, donc tu es même vice-président, je l'ai dit. Et dans ton engagement militant, tu es particulièrement sensible aux enjeux de l'éducation populaire et du logiciel libre dans le monde associatif. Mais ce n'est pas uniquement à ce titre que tu interviens aujourd'hui dans cet échange. Tu es toi-même récemment rejoint les CMEA. Tu peux peut-être justement préciser ce qu'il en est et de quelle position tu interviens.
Oui, effectivement, j'ai une position un tout petit peu particulière. Je vais être à la fois animateur et puis j'ai commencé à mettre un pied au sein de l'équipe salariée des CMEA à partir du 1er septembre. Ça n'a rien à voir avec le départ de Jean-Luc tout à l'heure. Mais néanmoins, effectivement, je vais prendre la suite d'une mission qui existait déjà sur la question du libre au sein du mouvement et même à l'extérieur. Donc voilà, on peut pas dire que je suis vraiment pour l'instant dedans parce que je n'ai pas encore fait la formation GRAF. Alors c'est une blague interne que mes camarades vont comprendre, mais voilà, donc je suis pas encore tout à fait dedans, ce qui me donne une position un petit peu intermédiaire, ce qui est assez intéressant parce que j'ai des questions un peu de nouvelles arrivantes qui vont être assez intéressantes, je pense, pour le déroulement.
Super. Peut-être qu'on va commencer par la première question qui me paraît assez classique. C'est quoi les CMEA? Comment ça fonctionne? Je pense que Laurent, tu seras peut-être pas mal pour animer cette partie de l'échange.
Oui, alors du coup, moi je vais en apprendre aussi à ce moment-là. Je pense que je vais me retourner là vers Jean-Luc par rapport à un peu les grandes dates des CMEA. Alors effectivement, on a qu'une heure, hein, Jean-Luc, hein, donc enfin moins d'une heure même, donc faut pas non plus refaire toute l'histoire, mais disons que les grandes dates des CMEA, de l'éducation nouvelle, qui est peut-être quelque chose de très particulier aux CMEA.
L'éducation nouvelle n'est pas particulière au CMEA. Il y a plusieurs mouvements associatifs aujourd'hui qui se revendiquent de l'éducation nouvelle. Donc les CMEA font partie de cet ensemble. Mais je ne revendiquerai pas ici une spécificité, une singularité propre. Grande date, j'en donnais une, la naissance des CMEA, 1937. Voilà. C'est symbolique parce que c'est juste après le Front Populaire et c'est l'apparition des colonies de vacances et puis la préoccupation des fondateurs des CMEA de la formation des cadres qui allaient s'occuper des enfants durant le temps de vacances. Et c'est là où est né on dirait aujourd'hui le premier stage de formation, sauf qu'en 1937, ce concept-là n'existait pas. Et donc, c'est le premier centre d'entraînement où des éducateurs viennent s'entraîner, pratiquer ensemble de nouvelles méthodes d'éducation qu'on appelle l'éducation active. Les CMA, ça part, c'est parti de là. Et puis après, c'est un élargissement des champs de préoccupation, des colonies de vacances, donc du monde des loisirs. On est passé bien sûr au monde de l'école. Comment parler d'éducation aujourd'hui sans s'intéresser à ce qui se passe autour de l'école, dans et autour de l'école. Et puis bien sûr, la santé mentale, la psychiatrie, parce que les questions de vie collective, de vie quotidienne, de relations avec, entre médecins, patients, parents, touchent aussi l'ensemble des champs d'intervention, et notamment celui de la santé. Et puis bien sûr aussi une application assez rapidement présente au sein du mouvement qui est celle du monde de la culture, avec notamment le Festival d'Avignon où Jean Villard vient chercher les CMA en 1954 pour essayer de faire que le Festival d'Avignon accueille des publics qui n'y viendraient pas spontanément. Donc culture, éducation, animation, jeunesse, tout ça fait partie d'un peu de l'histoire du mouvement qui a grandi au fil des ans et qui est encore présent aujourd'hui.
Merci.
Alors, on avait effectivement perdu le réseau, donc je vous propose, voilà, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent et qui interviennent, du coup, qui arrivent en cours d'échange, je vais repréciser très rapidement que nous discutons des CMA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et de leur pratique autour du logiciel libre. Nous venons d'entendre Jean-Luc Cazaillon, qui est l'ancien directeur général et militant au CMA, Morgane Perroche, qui est une des permanentes du mouvement, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau, et je suis avec Laurent Costi, qui est à la fois membre du conseil d'administration de l'April et qui vient d'arriver dans l'équipe des permanents du CMA, qui va intervenir un petit peu dans ce avec ses deux doubles casquettes, mais qui va apporter justement un regard que je pense intéressant. Et je pense qu'on peut passer, je te rends la parole, Laurent.
Oui, alors du coup, moi, la question que j'avais, c'était aussi le lien avec l'éducation nationale. Comment peut-être le retracer au fil de l'histoire? Parce que je découvre effectivement une forte... les CMA sont complémentaires de l'éducation nationale, sont un organisme complémentaire.
Oui,
est-ce que tu peux en dire un peu plus peut-être par rapport à ça?
Le lien, il commence simplement, en fait. Les premiers militants et les premières militantes des CMA, ce sont les enseignants. En fait, à l'époque où on s'occupe des colonies de vacances en 1937, 38, 39, 40 et après, ce sont les enseignants qui sont militants, qui viennent dans des centres, donc dans des stages pour se former et qui participent à l'encadrement des colonies de vacances. Donc la première histoire du rapport des CMA avec l'école, c'est l'accueil d'enseignants dans un espace militant nouveau pour eux et pour réfléchir à des pratiques éducatives en dehors de l'école, en fait. Et donc cette perméabilité, cette complémentarité, elle s'est construite par l'engagement militant d'enseignantes et d'enseignants qui venaient chez nous. Ensuite, après, de fil en aiguille, je dirais, on a quand même développé un centre de compétences, des actions de formation, et donc on a travaillé toujours en lien avec l'éducation nationale. Et c'est là où on peut définir ou trouver la notion de complémentarité, c'est-à-dire que ce que l'on développe comme intervention aujourd'hui, à la fois dans l'école et hors l'école, se situe en complémentarité des programmes scolaires et des orientations, des différentes orientations des différents ministres qu'on a pu croiser.
D'accord, merci. Est-ce qu'éventuellement tu peux expliquer un peu ce qu'est l'éducation nouvelle, en quelques mots aussi, avant de passer peut-être à l'organisation du réseau ?
L'éducation nouvelle, alors je vais faire simple, parce que la question qu'on nous pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est nouvelle encore aujourd'hui ? Elle le sera tout le temps, parce que l'éducation nouvelle, c'est l'éducation constamment renouvelée. C'est-à-dire qu'au lieu de se satisfaire de pratiques qui marchent et que l'on pourrait retranscrire, redévelopper, répéter, réitérer, sans rien changer d'année en année, l'éducateur qui milite ou qui agit en éducation nouvelle remet en cause ces pratiques constamment, chaque année, changement de public, changement d'orientation, changement de cadre, ça entraîne forcément des renouvellements. C'est cette dimension de la permanence du renouveau. Voilà, c'est ça qui caractérise l'éducation nouvelle. Et c'est un courant qui est d'éducation, qui est un courant, on pourrait remonter à Rousseau, mais voilà, Piaget, Vallon, Valo-Fréré, on peut trouver là Winnicott, beaucoup, beaucoup de références, de noms, de pédagogues, de psychologues, de philosophes qui réfèrent et qui ont alimenté le courant de l'éducation nouvelle avec cette approche d'une prise en compte de l'individu dans sa spécificité. Et la volonté de l'éducation nouvelle, c'est de faire que l'éducation soit active, c'est-à-dire que chacune des personnes, les élèves, les enfants, les adultes que l'on accueille, soient eux-mêmes porteurs de leur propre dynamique d'éducation.
Oui, on passe très très souvent par la pratique. Il y a toujours systématiquement une phase par la pratique. On rentre directement, il faut toucher, il faut essayer, expérimenter. Ça fait partie un peu de ces logiques.
Oui, et puis surtout, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de répondre à ses propres besoins. C'est la différence qu'il y a entre un programme préétabli pour tout le monde et cette dynamique-là, c'est que dans le programme préétabli, ça correspond à certains, mais pas à tous. Quand on est dans une dynamique d'éducation nouvelle, la recherche permanente que l'on a, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qu'on accueille dans une dynamique de formation, d'accompagnement, trouve et construise ses propres dynamiques éducatives. Je suis acteur de ma propre éducation.
Merci. Alors du coup, avant de passer à la question du libre au sein des CMEA, je voudrais juste qu'on aborde un peu le fonctionnement global des CMEA. Alors au niveau de la métropole, et puis Morgane peut-être nous parlera un peu de comment ça s'organise aussi à l'international et les actions qui y sont menées. Comme ça nous permettra aussi de voir peut-être la complexité qu'il y a à engager une démarche sur le libre.
Ben, les CMEA, c'est un peu moins de 400 salariés permanents aujourd'hui, un réseau de 5 à 6 000 bénévoles. Volontaires, militants, militantes, c'est comme ça qu'on se qualifie entre nous, présents en Hexagone et en Outre-mer. C'est une de nos spécificités, c'est qu'on est présent dans les 7 territoires d'Outre-mer, structurés en associations régionales, coordonnées, animées par une association nationale, qui est une tête de réseau en quelque sorte. Voilà un peu la structure et l'assise des CMEA aujourd'hui.
Oui, les associations territoriales sont autonomes, ce sont des associations à part entière.
Il y a une forme d'autonomie politique, juridique, économique, mais il y a surtout l'appartenance à un même mouvement. Les CMEA, c'est un mouvement militant d'éducation nouvelle, et cette unicité du mouvement, en appui sur la richesse que nous offre cette composition, cette réalité. Je laisserai Morgane après développer la dimension Europe internationale, mais c'est ça qui fait notre singularité. C'est donc un réseau d'associations avec une part d'autonomie, mais qui sont associées, militantes, engagées d'un même mouvement et un seul mouvement d'éducation nouvelle.
Morgane, peut-être sur la dimension internationale ?
Je peux compléter un petit peu. Donc, comme je vous le disais, moi, je suis arrivée directement dans la dimension internationale du mouvement des CMEA, donc avec la FICMEA, la Fédération Internationale. De là, j'ai découvert un petit peu toute cette pluralité d'acteurs et d'actrices qu'il y avait à travers le monde et qui étaient dans la même dynamique, en fait, de la question de l'éducation nouvelle. J'ai aussi été très en lien, donc à échelle politique, en fait, sur la Fédération Internationale, sur la question de la marchandisation de l'éducation. Et c'est à travers cette dimension politique de la marchandisation de l'éducation que j'ai découvert tout l'enjeu du libre et pourquoi le libre avait sa place aussi dans cet aspect-là. Aujourd'hui, les CMEA, donc il y a la Fédération internationale des CMEA, mais il y a aussi tout le travail qu'on a avec des partenaires différents à échelle européenne et internationale et qui sont toujours dans cette dimension du coup de l'éducation nouvelle. Mais là, ce ne sont pas forcément des organisations CMEA. Étant donné que chacune d'entre elles, même au sein de la Fédération internationale, sont indépendantes.
Voilà. Merci. Bah, je vais repasser la parole peut-être à Étienne, qui va vous questionner un petit peu sur le libre au sein des CMEA.
Oui, bah, déjà, moi, la première question que j'aimerais me poser, c'est un peu comment s'est développée cette prise de conscience. Et c'est vrai qu'en entendant Jean-Luc, tu parlais d'être acteur de sa propre éducation. Et moi, venant plus du coup d'une association du logiciel libre et de ce mouvement-là, je faisais tout de suite un parallèle avec finalement nous, ce qu'on défend, c'est l'importance d'avoir un rapport politique éclairé, être acteur finalement de ces outils informatiques, sans être forcément expert, mais au moins d'avoir ce rapport politique pour avoir finalement être émancipé, enfin dans une logique d'émancipation. Donc le pont me paraît évident, mais j'imagine que ça n'a pas forcément été tout de suite évident au sein de votre mouvement, parce que bah, vous aviez d'autres sujets aussi à traiter. Alors comment s'est construite cette prise de conscience, et puis ensuite la décision de développer l'usage et la promotion du libre?
Il n'y a rien d'évident.
Non, jamais rien de si évident.
Il n'y a jamais rien d'évident. C'est une prise de conscience progressive. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les premières approches du libre au sein du mouvement CMEA, ça a été porté par des militantes et des militants qui eux-mêmes étaient déjà engagés, convaincus, avaient une réflexion à la fois politique, une approche aussi, j'allais dire technique, c'est pas technique, mais je pense à la dimension aux communautés, en fait, hein, la dimension collective qui environne aussi et qui s'appuie sur ce que je connais de l'univers du libre. Donc ça a commencé par des préoccupations personnelles, des pratiques aussi qui ont fait tache d'huile après, souvent dans des équipes un peu restreintes à l'échelle territoriale. Et petit à petit, ça a fait tache d'huile parce qu'effectivement aussi l'environnement nous a amené à réfléchir sur ces questions-là. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, on se posait beaucoup moins de questions sur la question de propriétaire, de ce qu'on faisait de nos données, de ce qui se passait quand on surfait sur Internet et comment on retrouvait les publicités adaptées aux derniers sites qu'on avait fréquentés. Et voilà. Donc on a aussi, on est aussi en phase avec un environnement qui a beaucoup bougé et qui nous a aussi petit à petit amené à interroger nous-mêmes cette réalité entre le rapport du monde propriétaire et du monde du livre. Mais d'abord les préoccupations individuelles, puis ensuite après des groupes, des collectifs qui se sont montés pour ensuite arriver à quelque chose qui prenait un peu plus d'ampleur à l'échelle du mouvement, mais surtout avec une première approche qui est une approche technique ou de résistance, en opposition avec des copains qui étaient au contraire très promoteurs, mais qui avaient du mal à se faire entendre, parce que c'était pas un enjeu situé comme prioritaire, et puis parce que le livre à l'époque c'était pas joli, pas fonctionnel, voilà, et que c'était, il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient en la défaveur de l'usager en fait. Quand on regardait ce qu'on faisait sur Internet, c'était moins facile de le faire avec OpenOffice à l'époque qu'avec Word pour les ceux qui étaient les plus affûtés. Donc ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris du temps jusqu'à effectivement une prise de conscience et une mission qu'on a installée il y a trois années maintenant pour essayer justement de développer et d'asseoir cette réflexion politique au sein d'un mouvement d'éducation comme le nôtre.
Oui, puis c'est vrai que ça a toujours été un sujet qui est politique, mais plus nos usages, c'est-à-dire la manière dont, enfin, plus les outils informatiques vont conditionner l'exercice de nos droits, nos relations intimes qui vont passer de plus en plus par ces outils-là, plus peut-être cette évidence politique apparaît comme telle, c'est-à-dire une évidence. Et c'est pour ça que c'est important peut-être, quand c'était moins évident, et excusez-moi de répéter ce terme, d'avoir des personnes qui sont en mesure dans la pratique,
qu'on pas lâché le morceau, ça veut dire qu'en fait c'était pas un effet de mode, c'était un enjeu fort, sauf que cet enjeu fort n'était pas identifié et repéré par toutes et tous. L'environnement, je redis, l'évolution dans la société aujourd'hui, la place du numérique aujourd'hui, fait que les préoccupations paraissent normales. Après, chacun se positionne ou il y en a qui se positionnent pas. Mais en tout cas, on peut pas échapper à cet enjeu-là. En plus, on sort d'un épisode, le confinement, qui a quand même révélé beaucoup, beaucoup de choses de ce point de vue. Mais à l'époque, effectivement, l'environnement était beaucoup moins pesant, beaucoup moins présent dans ces enjeux politiques. Et donc, il a fallu aussi convaincre à l'interne du mouvement, pour y compris démontrer que cet enjeu politique était complètement en phase avec ce que l'on défend par ailleurs, ce que l'on promeut par ailleurs sur la question de l'éducation. Tu le disais, l'éducation active, c'est le rapport au pouvoir d'agir que j'ai moi-même sur ma destinée, ma vie, mon destin, mais aussi sur mes données. Et donc là, il y a des points de convergence évidents qui sont évidents aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a 10 ou 15 ans, en tout cas pour le plus grand nombre.
Bien sûr que ça se construit, tout ça se construit. Et du coup, comment ça se construit au sein des CMA? Donc on imagine qu'il y a d'abord tout un pan qui va être dans les usages quotidiens au sein de votre mouvement, et puis aussi dans le développement peut-être en termes de formation et de communication, de comment on se positionne le libre. Donc déjà peut-être en termes techniques plus ou moins, comment ça se passe au niveau des outils au sein des CMA? Est-ce que vous utilisez du logiciel libre? Est-ce que vous avez...
Oui, on a fait un grand pas en avant il y a trois ans quand on a créé la mission Libre et Éducation Nouvelle, où effectivement l'un des premiers actes qui a été posé par Pascal Gascoigne qui a occupé cette responsabilité jusqu'au 1er septembre dernier, ça a été de soutenir le développement d'une plateforme libre qui s'appelle Zourit. Zourit, ça veut dire la pieuvre en créole. Et donc on a accompagné le développement de cette plateforme qui permettait de mettre en lien et en fluidité à la fois messagerie, carnet d'adresse, agenda partagé, visioconférence, voilà, quelques outils comme ça. Et donc aujourd'hui, tous les CMA utilisent Zourit au quotidien, et donc toutes les associations territoriales des CMA, ici ou ailleurs, utilisent Zourit. Et donc ça a été... Il y a eu deux chocs. Le premier, c'est le fait qu'on finance et qu'on participe économiquement au développement, donc on s'inscrive dans la logique de communauté et de soutien de cette entreprise, d'une association qui est basée à La Réunion. Et puis ensuite, après, qu'on arrive à convaincre chacun de nos camarades d'en faire un outil d'usage au quotidien. Et donc tout s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, je pense que, sans me tromper, je pense que toutes les structures respectives des CMA utilisent Zourit.
Alors, je sais que Laurent voulait passer un petit temps sur effectivement Zourit, qui est un très bel exemple et très bel outil. Tu veux en parler tout de suite ou plutôt en fin d'émission?
Alors, moi, j'avais plutôt une question à Morgane pour savoir, elle, à quel niveau la prise de conscience s'était faite. Est-ce que finalement, c'est la rencontre avec Pascal, donc Pascal que tu as évoqué tout à l'heure, Pascal Gascoigne, qui a été finalement un pivot dans ce processus-là, mais qui n'aurait pas pu agir s'il n'y avait pas une décision politique à un échelon du conseil d'administration? Ou est-ce que c'est finalement aussi par la formation que ça s'est construit? consolider, parce que ça aussi c'est quelque chose de central chez les CMEA, et je pense que ça a joué aussi en faveur de l'évolution de la prise en considération du libre au sein des CMEA.
Alors moi je suis arrivée au CMEA donc il y a 2 ans et demi, donc au même moment où Zurit en fait se mettait en place, de mon côté ça a vraiment été Pascal qui a été un peu révélateur de plein de choses. Mais au niveau des CMEA, moi je me suis entretenue avec plusieurs personnes, je travaillais à la Fédération Internationale, et c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Donc comme le disait Jean-Luc, en fait il y a un moment donné où il y avait des personnes qui se sentaient concernées par cela et qui les ont portées à plus grande échelle. Donc Pascal a pu faire ça dans sa mission, mais ensuite il y a plusieurs associations qui se sont emparées de cette dimension-là et qui en ont fait quelque chose. D'où aujourd'hui le fait que Zurit soit devenu un pro-logiciel que la plupart des associations territoriales utilisent, et qui fait qu'en fait ça a pris énormément d'ampleur. Et on aura l'occasion d'en discuter, mais Zurit a pris même de l'ampleur à l'externe des CMEA, et ce n'est pas anodin, je pense.
Merci. Alors donc effectivement, j'essaie de résumer, mais de fait, il y a la rencontre entre des gens qui enfin, où ça résonne, quoi, où ça amplifie et ça converge, quoi. Je pense à Pascal. Toi qui as eu une action politique, ce qui est pas, parce que finalement, alors là, je prends ma casquette April Libre Association, où on observe un peu cette question du libre dans les associations, et où effectivement, dans tous les mouvements, dans toutes les fédérations d'éducation populaire, on repère des gens sur les territoires qui sont convaincus, qui sont politiquement convaincus, qui ont fait des choses. Mais c'est vrai que la jonction avec le niveau national, elle est pas effective, elle est rarement effective. Il y a rarement une convergence finalement qui fait que ça va résonner. Il y a des prises de conscience aussi au niveau national, il peut y avoir des signatures de conventions, des choses comme ça, mais du coup ça ne converge pas. En fait, vas-y, je t'en prie.
Moi il y a eu un déclic dans mon parcours personnel, parce que je ne suis pas non plus, je suis pas un bébé du libre, hein. Donc il a fallu aussi me convaincre, mais pour moi le déclic ça a été la rencontre avec Framasoft. Voilà, c'est-à-dire une soirée, université d'été des CMEA, un débat avec Framasoft, et là je percute en fait quand Pierre-Yves il nous dit mais la lutte du libre c'est pas contre Microsoft ou contre Windows, quoi, c'est autre chose.
Pierre-Yves Gosset qui est donc le délégué général de Framasoft.
Voilà. Et donc moi ça a été une révélation. En tout cas ça a mis des mots sur ce que on m'avait déjà dit, hein, que je percevais, mais voilà. Donc cette rencontre-là elle a été fondamentale. Donc par rapport à ce que tu dis sur la dimension politique, moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut que d'autres associations d'éducation populaire comprennent les enjeux, il faut démontrer les convergences en termes d'enjeux politiques. Et cet enjeu de la citoyenneté, de la démocratie, du pouvoir citoyen, du pouvoir d'agir, c'est l'enjeu central de tout ce qui se joue aujourd'hui en grande partie autour du libre. Et le deuxième point, je trouve, qui est très fort, c'est la question de l'approche au commun, c'est-à-dire l'approche du collectif. Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup de structures, beaucoup de mouvements d'éducation populaire, il y a cette volonté de continuer à agir au quotidien pour émanciper, c'est-à-dire donner à chacun les moyens de comprendre et les pouvoirs d'agir, et en même temps de le faire dans un cadre collectif avec d'autres. Ça, c'est les deux enjeux forts que moi j'ai identifiés à ce moment-là dans le rapport au libre. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas possible qu'un mouvement comme le nôtre ne soit pas dans cette dynamique-là et ne comprenne pas l'enjeu politique qui est derrière le débat que nous avons et derrière les situations du quotidien.
Morgane ?
Bah, je vais suivre Jean-Luc sur ce qu'il dit. Je pense qu'il y a une dimension déjà individuelle de chacun et de chacune quand on parle du numérique, en règle générale, où en fait on va se rendre compte que c'est très facile de parler de ce genre de sujet puisque les gens sont souvent alertes. En tout cas, s'intéressent à cette question-là et sont à même d'avoir une discussion autour de cela. Et après, il y a la question où nous, en tant qu'individus, quand on est des militants et des militantes de différentes associations, on prône certaines valeurs, on prône des engagements. Et le moment où on fait le lien entre le numérique à grande vitesse d'aujourd'hui et les engagements que l'on a en tant que militants et militantes, ben, on arrive à construire des choses ensemble. Et je pense que Zurit, c'est typiquement ce genre de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des engagements de la part d'un mouvement éducatif et qui, après, vont prendre de l'ampleur. En fait, quelles solutions on va essayer de mettre en place pour que dans le même temps, on puisse continuer à utiliser du numérique, puisque c'est la question aussi du lien avec la permanence du nouveau dans l'éducation nouvelle. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le numérique. Et comment on fait pour trouver des alternatives? Et aujourd'hui, on a essayé d'en proposer.
Oui, apporter des solutions, parce qu'effectivement, le libre est longtemps resté dans « mais non, faut pas faire ça », mais sauf qu'il n'avait pas d'alternative. Alors on dirait vite utilisable par le commun des mortels, et c'était un souci pour le libre. D'accord. Alors j'essaye de résumer, je résume par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc effectivement, il faut des gens convaincus qui vont finir par se croiser et convaincre. Il y a des rencontres et des réseaux. Donc la Framasoft, typiquement, ça a joué pour convaincre. Il y a la formation, pour moi c'est, ça me semble, enfin je le mesure là après un mois passé, mais ça me semble effectivement extrêmement important dans le processus aussi. Et puis vous avez un facteur complémentaire aussi, je pense au CMEA, qui est un technicien compétent et militant. On en a parlé tout à l'heure en introduction, mais je termine là-dessus et après je repasse la parole à Étienne. Mais effectivement, on va le citer, François Audirac, qui est au système d'information des CMEA et qui par ailleurs est président d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans sa région, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois technicien et qui est par ailleurs absolument convaincu politiquement. Et en interne, c'est précieux.
Merci Laurent, et très bien cette petite synthèse, et bienvenue, parce que je vous propose de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Sa Part par Tintamarre. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
On va t'attendre à la maison.
Oh ouais, ça part en voyage, quand ça plus rien à faire. Oh ouais, ça part en voyage, quand on fait de main dans ses affaires. Oh ouais, ça part en voyage, quand ça se trouve plus dans sa tête. Oh ouais, ça part en voyage, quand ça sent plus bien. Changeant ou de la conception différente du temps, ouais, rendu là, qu'est-ce qui va être différent? Est-ce que toutes les cultures cachent le même genre de gens? C'est toujours le même mur sur lequel tu veux. Dis-moi, c'est quoi ta lutte? C'est qui tes vrais amis? Sur le point du fixe, au plafond, c'est toujours écrit. Qu'est-ce que je crée ici? Pas une chose qui est bien, quand on sent plus rien, tu veux pas que tout et le matin soit pareil. Ouais, pas une chose qui est bien, quand on sent plus rien, le positif.
Nous venons d'écouter Sa Part par Tintamarre, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Tintamarre est décrit sur le site ZikLibre en bebop.fr, grâce à qui nous avons découvert ce morceau. Donc, Tintamarre est un collectif d'une dizaine de musiciens de Montréal qui délivre une musique pleine de fanfare rock, de post-punk folk et de paroles contestataires. Voilà, vous pourrez retrouver ces informations là sur ziklibre.bib.fr. Pardon, le lien sera bien sûr en référence sur le site de l'April.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Alors, je mentionnais le site de l'April, mais je vous rappelle que nous avons un tout nouveau site, libreavou.org, qui est en préouverture. Là, vous pourrez par exemple retrouver les références de cette émission sur libreavou.org/116116 comme le numéro de l'émission. Donc, nous allons poursuivre notre sujet, notre discussion. Je suis donc Étienne Gonu de l'April et j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Costi, Jean-Luc Cazaillon et Morgane Perroche sur les CMEA et leur rapport au logiciel libre. Alors on a un petit peu évoqué je pense en première partie d'émission et peut-être qu'on pourrait revenir justement sur une question qui me paraît enfin, parfaitement d'actualité. Ça n'aura échappé à personne que nous sommes dans le cadre d'un contexte d'une pandémie mondiale. On a passé un certain temps aussi en confinement et on sait voilà, que ça a pu avoir certains impacts. Et j'imagine notamment dans le cadre de votre travail. Qu'en est-il ? Tu peux nous en dire quelque chose Morgane ?
Alors au niveau de l'international, il y a plusieurs choses. Donc, pour refaire un petit peu de lien avec ce que Marie-Odile nous a dit en début d'émission sur la question de la marchandisation des savoirs, nous, je le disais aussi au début, c'est qu'on travaille sur la question de la marchandisation de l'éducation. Donc, on milite contre la marchandisation de l'éducation. Et aujourd'hui, à échelle mondiale, donc il y a eu tous ces épisodes de confinement, de Covid, enfin, peu importe les mots qu'on a employés à échelle mondiale, mais en tout cas, il y a eu un énorme essor de l'utilisation des outils du numérique. Et aujourd'hui, il semble nécessaire de devoir se réintéresser à ces questions-là, de quels outils on peut mettre en place à échelle mondiale pour lutter contre les grands de la technologie. Donc nous, au CMEA, on essaye de porter cette voie-là. Donc on a déjà parlé de Zurit, mais c'est vraiment de faire comprendre en fait aux organisations, de faire comprendre aussi au système éducatif qu'il est nécessaire de devoir trouver des alternatives qui ne collectent pas les données des individus. Donc aujourd'hui, les CMEA sont présents sur différents réseaux et donc nous, on travaille beaucoup avec un réseau européen qui s'appelle Solidar, où aujourd'hui, on a pu mettre en avant la dimension de la marchandisation de l'éducation au niveau européen, donc devant la Commission, etc. Donc il y a des choses qui sont en cours au niveau politique, à plus grandes échelles. Alors ça prend du temps, on le verra même en France où aujourd'hui il y a des choses qui ont été proposées par le ministère de l'Éducation nationale mais qui sont à notre sens pas forcément mis en avant ou suffisamment mis en avant à défaut d'avoir en fait enfin, au détriment plutôt d'avoir des Microsoft, des Windows qui sont encore dans les écoles et ça c'est un réel combat qu'on doit mener au niveau des CMEA. Et c'est un combat qui est mené en France aujourd'hui, mais qui à échelle mondiale intéresse beaucoup de personnes dans le système éducatif, enfin dans les différents systèmes éducatifs que l'on a à échelle mondiale.
Alors peut-être enchaîner justement sur l'outil qui a été promu un peu dans ce cadre-là. On en a parlé à plusieurs reprises, mais Zurit, du coup, a été développé par les CMEA en appui avec une structure qui est sur l'île de La Réunion, d'où le nom d'ailleurs hein, que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc. Voilà. Alors c'est quoi Zurit pour l'expliquer assez rapidement je pense, enfin, pour l'expliquer rapidement, on va dire que c'est une agrégation de plusieurs logiciels libres, mais qui ont été rendus facilement accessibles, facilement compréhensibles. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que les débuts du libre étaient un peu compliqués parce que les interfaces n'étaient pas forcément jolies. Enfin, on ne pouvait pas concurrencer des grosses structures commerciales qui avaient des designers à foison et puis qui avaient énormément d'argent pour faire développer les magnifiques logos qui brillaient. Alors effectivement, les gens qui ont l'habitude de travailler sur une interface en noir et blanc, ça les dérangeait pas, hein, ce qu'on appelle généralement les geeks, mais néanmoins pour l'utilisateur qui avait l'habitude de ces logos brillants, c'était un peu compliqué. Donc l'idée de Zurit, c'est de dire on va agréger des outils libres, alors évidemment très attaché à la question du libre, dans une interface et centraliser les objets ces outils-là, quoi. Donc voilà, on y retrouve de l'édition collaborative, on y retrouve le moyen de gérer ses mails, son agenda, ses contacts. On utilise finalement un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Zimbra, qui est assez connu et qui est pas mal utilisé. On facilite la question des listes de diffusion, les sondages. On peut y déposer des fichiers dans un nuage, qui peuvent évidemment, les fichiers peuvent être partagés par les utilisateurs de Zurit. On peut gérer les accès pour les administrateurs de la session. Il y a l'option maintenant visioconférence. Potentiellement, on peut y adjoindre un autre logiciel libre qui permet de gérer son association de manière plus globale, qui s'appelle Garadine, par exemple. On peut synchroniser ses données entre son téléphone et son ordinateur. Donc, finalement, Zurit, c'est pas un nouveau logiciel qui a été inventé à partir de zéro, mais bien finalement une agrégation et une mise en beauté, on va dire, soyons poétiques, une mise en beauté de plein de logiciels libres, voilà, pour répondre vraiment aux besoins de structure. Alors certes, d'abord, il a été utilisé en interne pour répondre à cette logique des CMEA que d'abord se confronter au quotidien. Donc il y a eu pas mal d'échanges avec les différentes communautés de logiciels pour faire remonter des bugs, poser des questions, comprendre, etc., et alimenter et contribuer. Et puis après, avec la pandémie, c'est vrai que c'est développé un peu un service potentiel aux associations, un service alors contre rétribution, hein, pour payer l'hébergement, par exemple, pour que les associations puissent utiliser simplement ces outils-là. Alors on notera, je trouve que c'est intéressant, mais par exemple, les associations payent à la quantité d'espace de stockage. Alors c'est plus du tout dans l'air du temps, hein. Google offre gratuitement des espaces de stockage pratiquement infinis, mais les CMEA tenaient à ça par rapport à la question de la sobriété numérique. Il faut que les gens prennent bien conscience que une quantité de données, bah, ça se met sur un serveur, ça demande de l'énergie, de l'électricité pour entretenir cette quantité de données, etc. Donc il y a eu plein de réflexions autour de cette constitution et de cette création de Zurit. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu un exemple de ce que pouvait être Zurit.
Merci beaucoup. Alors ça m'évoque beaucoup de choses, mais est-ce que Morgane ou Jean-Luc, vous souhaiteriez apporter des précisions sur ce que vient de dire Laurent?
Non, Laurent est complet, donc voilà, je pense que pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, faut aller voir sur faut taper zurit.net et puis aller voir ensuite, voilà, se faire son idée. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que tu faisais référence au confinement, vous faisiez référence au confinement et au monde associatif, mais le monde enseignant a beaucoup utilisé aussi Zurit, par exemple, durant la période du confinement. Pour deux raisons. La première, parce qu'effectivement, ils trouvaient techniquement avec Zurit les moyens de répondre à des besoins qui étaient les leurs, donc de constituer des groupes classes, de pouvoir faciliter le lien entre les enfants, voilà. Donc, mais aussi par choix politique. Durant le confinement, on a été quand même abreuvé de propositions, de plateformes de nature propriétaire, marchande. Et qu'il y a aujourd'hui aussi un enjeu à chercher des solutions libres. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la philosophie de ce que l'on évoque depuis le début de cette émission. Et donc beaucoup d'enseignants, des écoles même, parfois complètement, collèges, lycées, ont trouvé dans Zurit la convergence à la fois d'un choix politique, d'une motivation, et puis d'une réponse technique adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est important de le souligner.
Alors, ouais, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de rendre la parole à Morgane Perroche sur un autre outil, et on parlait plutôt de l'importance, voilà, aussi de qu'il y ait des forces vives au sein des structures et des mouvements comme les CMEA, mais aussi il y en a au sein du ministère, et on sait qu'une poignée d'agents ont bataillé et ont mis en place des outils libres, apps.education.fr. Ils ont dû batailler, et maintenant finalement ils sont soutenus par leur hiérarchie, et ils ont offert, voilà, aux enseignants aussi des outils librement disponibles, et je tenais à saluer leur excellent travail. Morgane Perroche.
Alors pour revenir juste sur Zurit, honnêtement, moi, quand je vois ce qui est devenu Zurit aujourd'hui et la façon dont je l'utilise donc au quotidien, puisque je travaille complètement avec ce pro logiciel, ça répond un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission sur la question de l'esthétique du libre, la facilité d'utilisation, etc. Zurit prouve que c'est complètement possible aujourd'hui d'utiliser des logiciels libres qui correspondent à nos attentes, à nos besoins, en tout cas en tant qu'organisation d'éducation populaire. Et je salue en fait toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce prologiciel et qui font en sorte que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse perdurer dans le temps et que ça donne aussi envie à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leur prologiciel, enfin en tout cas de s'en donner les moyens. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question de Oui, mais bon, c'est plus facile avec tel ou tel logiciel propriétaire. Oui, mais on peut très vite aussi changer nos habitudes, c'est possible. Et c'est toujours la dimension politique que l'on donne à changer nos habitudes. Et pour revenir sur ce que toi tu disais, Étienne, sur la question des outils qui sont proposés par le ministère, c'est pareil, pour moi c'est un élan d'espoir vis-à-vis de ce qu'on peut faire. Et maintenant, le but, c'est que ce soit encore, enfin, qu'il y ait davantage de communication là-dessus, que les enseignants et les enseignantes soient au courant, en fait, que ces outils-là existent, puisque malheureusement, je pense qu'on est au début de tout ça et qu'il y a peu de communication là-dessus et qu'on est encore sur des logiciels propriétaires.
Tout à fait. Et on voit, en fait, la différence. Là, il y a eu une initiative et comme ça fonctionnait très bien, bon, ça a été à peu près soutenu. Et on voit vraiment la différence de ce cas de figure avec une vraie politique publique. Une approche systémique, en fait, où on donnerait véritablement une priorité au logiciel libre dans les usages, que ce soit en tant qu'outil à disposition des enseignants, en tant qu'objet d'éducation. Voilà, on n'enseigne pas le rapport à l'informatique avec des outils privateurs, mais on l'enseigne bien de manière émancipée avec du logiciel libre, ce qu'est le logiciel libre, etc. Et je pense que cette distinction est importante, et elle manque encore clairement en termes de politique publique. Laurent, tu voulais reprendre la...
Oui, mais en fait, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'on est en train de passer en revue différents outils, différentes structures qui mettent en place des solutions, et finalement c'est encourageant parce que ça donne l'impression qu'on va quand même vers une décentralisation d'Internet. Voilà, c'est peut-être les prémices de la décentralisation d'Internet où finalement l'utilisateur va pouvoir choisir entre plein d'objets en fonction de ses besoins, et puis surtout ne pas laisser ses données sur des structures centralisées. Alors certes, oui, s'il utilise Ouvrite.net, il va laisser sur les serveurs, mais encore une fois, toutes les garanties sont données par la structure, mais au moins il va pas mettre ça dans un unique silo comme quand on fait ça chez les GAFAM, etc. et du coup ça limite le profilage, ça limite tous les effets néfastes que nous à l'April évidemment on dénonce.
Voilà, et bon, je pense que, alors, je sais pas si tu voulais revenir à là, mais on sait qu'à l'initiative, on parlait de Framasoft, ils ont donc leur excellente initiative Chaton, hein, là, alors je vais le tenter sans note, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Parfait.
Et qui effectivement sont dans cette approche éthique et d'un internet fédéré basé sur des outils de confiance, sur du logiciel libre, parce que il y a pas de confiance sans transparence non plus. On délègue toujours de la confiance, mais bon, faut savoir sur quelle base on la délègue et quand on peut aussi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant les chatons, et je pense que c'est assez cohérent Alors, Jean-Luc Cazaillon, le masque de Jean-Luc Cazaillon vient un peu de casser.
Bon lâché, ouais.
Voilà.
Il l'a fait exprès.
Je pense qu'on est tous masqués. Si à un moment donné c'est trop inconfortable, on pourra se.
Tu voulais parler peut-être de la convention qui liait les CMEA et Framasoft.
On peut venir à ça. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est en fait ça ramène de l'humain et ça ramène une dimension de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est des géants un peu éthérés, bon, ben voilà, le service est là. Alors on peut discuter de sa pertinence, mais quand on peut rencontrer quelque part et que les structures se rapprochent de nous, je trouve que ça change complètement le paradigme. Et du coup, effectivement, donc il y a une convention où, voilà, quel est le lien, quelle est l'action des CMEA vis-à-vis de ce collectif Chaton. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi, et que nous, on pousse à l'April par rapport notamment au collectif, enfin au pouvoir public. C'est bien d'utiliser le logiciel libre, mais c'est encore mieux quand on contribue, quand on devient véritablement acteur et contributeur et contributrice des projets libres et du logiciel libre en général. Et voilà, le chaton est un bel exemple de ça. Jean-Luc Cazaillon.
Sur les chatons, je suis pas le mieux placé pour répondre, parce que moi, il a fallu qu'on m'explique plusieurs fois ce que c'était. J'ai bien compris le sens et l'intérêt, mais je suis pas le mieux placé pour répondre. Ce que simplement je peux dire, c'est qu'effectivement, d'une part, la collaboration avec Framasoft, elle s'inscrit aussi dans une histoire et dans voilà, les CMEA ont été à la Réunion très mobilisés. C'était encore Pascal Gascoigne à l'époque, il était réunionnais dans l'accueil des mondiaux du libre, par exemple,
des rencontres mondiales, délocalisées.
Voilà, des logiciels libres. Donc ça c'est une collaboration, une histoire aussi forte, mais la rencontre, elle se fait sur la complémentarité. C'est-à-dire Framasoft a besoin de découvrir ce qu'est le monde de l'éducation populaire, et nous on a besoin de Framasoft pour aussi utiliser à la fois leur réflexion politique et leur capacité aussi eux-mêmes à développer les choses. Donc c'est cette complémentarité et cette convergence d'analyse et de lutte d'une certaine façon qui donne le sens de cette collaboration. Et puis tu as raison, Étienne, on est rentré dans Zurit par le fait de soutenir le développement de Zurit. Et ça, pour moi, c'était fort déjà de pouvoir se dire que au lieu d'acheter quelque chose, on allait soutenir un développement porté par une association, voilà, et qu'on a contribué nous aussi et qu'on contribue aujourd'hui dans l'approche collective à faire progresser cet outil-là. Et ça, c'était génial.
Morgane Perroche.
Mais je pense que j'ajouterais aussi, en revenant sur ce que tu dis, Jean-Luc, en tant que mouvement d'éducation populaire, on est dans une dimension, on est dans l'idée de que chacun et chacune est acteur ou actrice de son éducation aussi. Et la question du livre, au-delà de l'aspect technique qu'on peut avoir et où des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, parce que moi j'ai découvert le livre de façon plus avec une vision politique qu'une vision technique, où je disais à tout le monde mais non, en fait. Il ne faut pas compter sur moi, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, si, et du coup, c'est de mettre tout le monde... de dire à chacun et chacune, en fait, il est possible aujourd'hui de trouver des alternatives, et en plus de ça, tu peux y contribuer. On ne te demande pas de passer des heures et des heures derrière un ordinateur, loin de là, mais il y a plusieurs façons de contribuer au libre aujourd'hui, puisque c'est la notion de commun, et Mario G nous en parlait avec Wikipédia juste avant, et on peut le faire de plein de façons différentes, et tout ça, vous avez toutes les références, je pense, sur les différents sites qui ont été nommés précédemment.
Voilà, et puis il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des associations comme l'April, comme CMEA, il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices logicielles qui seront ravis aussi de vous accompagner dans la démarche. Laurent.
Oui, je voulais revenir sur la question d'éducation populaire. Alors d'abord préciser que les CME, c'est un mouvement d'éducation nouvelle et une association d'éducation populaire. Je crois que j'ai retenu ça du congrès, j'espère
ouais,
que j'ai
bien,
bon.
C'est bien, c'est bien.
Voilà, là j'ai bon. Merci. C'est parfait. Et oui, effectivement, et c'est pareil, l'éducation populaire, elle reste d'actualité. La preuve, Framasoft se revendique désormais d'éducation populaire. Et a demandé l'agrément éducation populaire. Donc c'est là aussi qu'on converge aussi entre associations et entre réseaux et qu'on se reconnaît et qu'on est capable après de travailler ensemble et d'aller un peu dans le même sens avec chacun nos spécificités, notre histoire évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une question actuelle et l'éducation populaire a bien raison de se saisir de cette thématique-là qui me paraît essentielle.
Tout à fait. Alors, on parlait des chatons justement, l'objet n'était pas d'en discuter ici, mais si nos auditeurs auditrices souhaitent creuser le sujet, vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait consacrée où on avait discuté en détail taille des chatons, libreavoue.org/30. Laurent, justement, tu disais, tu sembles voilà, apprendre finalement les CMA et je trouverais intéressant que tu nous dises, toi qui viens d'arriver, comment t'as perçu finalement toi de ton regard, hein, on parle parfois de rapport d'étonnement, comment tu perçois justement avec ton regard April notamment, ton expérience par rapport au logiciel libre, tu arrives dans ces structures. Comment tu as perçu un petit peu tout ce qui avait été mis en place?
Oui, alors en fait, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure à la question. En fait, je m'interrogeais, j'avais ce regard aussi libre association de savoir mais pourquoi ça a bien marché au CMEA en fait. Donc j'ai donné un peu des éléments de réponse. Hein. Il y a la question des personnes. Pour moi, finalement, c'est assez essentiel le croisement des personnes. Ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on regarde les mouvements d'éducation populaire, on trouve sur tous les territoires des militants qui sont convaincus du libre, qui font des actions, qui essayent de les promouvoir à leur réseau en le faisant remonter. Et il y a souvent une prise de conscience politique, mais la jonction reste assez ténue finalement. Il n'y a pas une convergence, on va dire. Donc là ça a fonctionné parce que c'est la rencontre de personnes à un moment donné, au bon moment, plus. Effectivement, et ça c'est primordial, moi j'avais constaté dans mon propre réseau quand j'étais à la Fédération Française des MJC, il faut faire venir parler quelqu'un d'extérieur. Ce que j'expliquais toujours, c'est que quand moi je parlais de logiciel libre à la Fédération Française des MJC, les gens se disaient « Oh non, encore Laurent qui va nous parler de ces trucs-là » et hop, les gens fermaient leurs oreilles et arrêtaient d'écouter. Alors qu'en fait, quand on venait faire intervenir quelqu'un qui disait exactement la même chose mais qui venait de l'extérieur, les gens se disaient « Ouais, mais finalement, Laurent, il dit peut-être pas que des bêtises, quoi. » Et donc, du coup, ce tiers regard, cet tiers intervenant, il est primordial. Et c'est exactement ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. C'est quand Framasoft est venu redire ce que Pascal disait depuis déjà des années au sein des CMEA, que le déclic s'est produit, quoi. Donc, ne pas négliger ce point-là, je pense qu'il est assez central dans le déclenchement des processus. Donc voilà, après ce que je découvre c'est toute la machine formation qui me semble vraiment très très, très très avancée au sein des CMEA et qui aussi joue un rôle primordial, on peut pas le négliger, c'est-à-dire que il y a une machine qui se met en place chaque année sur les formations programmées, donc très tôt en amont on sait que à telle date il y aura une formation Zurit, donc les associations territoriales peuvent s'y inscrire, se former, et après on est aussi dans le déclenchement de formations de formateurs qui vont pouvoir relayer appuyer sur le terrain. Donc on a vraiment un effet qui permet de démultiplier l'efficacité des messages qui sont passés sur le thème du livre, mais après c'est évidemment tous les thèmes qui sont travaillés au sein des CME, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je découvre depuis un mois, hein. c'est une grosse machine, qui n'est pas du tout organisée comme mon réseau précédent, mais qui a une force de frappe assez intéressante sur cette logique-là.
Super. Alors peut-être une question qu'on peut se poser, donc maintenant que vous êtes riche aussi d'une expérience, d'un parcours, quel bilan vous en tirez ? Est-ce que vous avez notamment identifié des difficultés ? Et je pense que ça pourrait intéresser notamment d'autres structures qui pourraient nous écouter, de savoir voilà, qui auraient cette envie de s'engager. Est-ce que vous y avez des difficultés clés que vous avez perçues et que vous avez pu surmonter et comment vous avez...
Avant de parler des difficultés, en écoutant Laurent, je me disais, ce qui est assez intéressant au fil des années, c'est que cette question, l'enjeu que l'on évoque là du logiciel libre, a pénétré quasiment tous les champs d'intervention des CMEA. C'est-à-dire grosso modo, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit à part ou à côté de l'école, de l'animation, du travail social, de la culture, mais au contraire, ça vient irriguer l'ensemble des champs. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une problématique qu'on pourrait aborder sous l'angle culturel. On parle bien de culture d'entreprise, on a aussi des cultures de logiciels, et ça c'est une évolution qu'on a pu mesurer au fil des années, et notamment aussi à travers la dimension européenne internationale, parce que les plateformes qu'évoquait Morgane tout à l'heure, notamment elle évoquait Solidar, ça regroupe des syndicats à l'échelle européenne par exemple, et voilà comment aujourd'hui un syndicat s'empare de ces questions-là, qui est un enjeu politique mais qui est aussi un enjeu d'usage. Donc voilà, ça c'est un premier effet positif, voilà.
Moi, je suis très sensible à cet argument, et toutes les structures ont leur cœur de métier, un peu l'objet de leur lutte. Mais moi, je crois finalement à l'approche un peu holistique, on va dire, de l'objet politique et de l'éthique, et la moyen dont on met en œuvre, les manières dont on met en œuvre dans la pratique, matériellement, finalement, l'objet de notre lutte sont essentielles. Donc, ça va être de prendre en compte aussi les questions d'antisexisme, par exemple, d'antiracisme, etc. De comment on pratique au quotidien. Bien sûr, ça ne fait pas en faire l'objet principal, l'objet des CMEA. C'est pas la défense du logiciel libre, mais je trouve très intéressant comment effectivement tu évoques que ça fait partie des pratiques et que ça irrigue en fait tous les champs. Ouais. Et voilà, je tenais à signaler que j'étais vraiment sensible effectivement à ce point moi aussi.
Oui, je pense que c'est un enjeu important, surtout dans un mouvement comme le nôtre, parce que les champs qu'on évoque, il y a un risque, hein. Le risque c'est d'avoir des tuyaux d'orgue ou des boîtes tupperware, c'est-à-dire des choses fermées qui ne communiquent pas ou à la marge. Et tout le travail que j'ai conduit entre autres, mais qui a été aussi porté par Morgane entre autres et Laurent aujourd'hui, c'est d'arriver justement à trouver ces éléments de transversalité, ces éléments de pénétration qui fait que les problématiques ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont forcément étroitement mêlées. Et le monde de l'animation, par exemple, à travers les pratiques des jeunes, les pratiques du quotidien, ne peut pas être absent de la réflexion que l'on porte là sur le rapport au libre. Ça a même commencé par là. Il y a 30 ans, quand on disait qu'on allait monter un groupe jeux vidéo, on se faisait tuer parce que c'était pas un jeu traditionnel comme les CMEA aiment parfois les promouvoir. Donc voilà, 30 ans après, le jeu vidéo fait partie d'un univers du quotidien. On voit que ça peut créer du collectif aussi. Tout le rapport au numérique peut pas être absent d'un quotidien dans lequel les militants sont également engagés. Donc cette dimension de transversalité et de pénétration, elle est fondamentale pour justement en faire un objet commun et pas des objets spécifiques, ce qui aussi permet de résister à une première approche qui a été une difficulté, c'était de dire c'est un débat de geek, c'est un débat de spécialiste. Et c'est vrai que ça a été pendant très longtemps perçu par un grand nombre d'entre nous comme étant un débat de spécialistes, ceux qui étaient capables de dire en quoi le libre était différent du propriétaire et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faut passer d'un débat de spécialistes à un débat de citoyens, donc un débat de militants. Et ça, ça prend du temps, et c'est par l'approche politique au sens large du terme que l'on arrive petit à petit à ramener cet élément-là pour en faire un objet central et puis une réflexion toujours en cours, quoi. Donc cette difficulté-là, elle est encore présente moins maintenant, mais c'est pas un débat de geek, quoi. Et c'est pas des fous furieux d'un côté qui passent une nuit pour développer un logiciel quand d'autres vont...
Qui culpabilisent potentiellement les personnes en disant « Ah là là, t'es pas encore sous système d'exploitation libre. »
Comme j'y comprends rien, je peux rien dire. Voilà. Non, mais je te demande pas d'intervenir comme tu peux le faire, Laurent, ou comme d'autres peuvent le faire pour développer un logiciel, ou comme Morgane ne sait pas le faire. Et heureusement qu'elle ne sait pas le faire, parce que c'est grâce à ça, au fait qu'elle ne sache pas le faire, que ça n'empêche pas pour autant d'avoir un débat politique et une réflexion sur justement l'approche marchande. Et cette question de la marchandisation que Morgane évoque depuis tout à l'heure, elle est fondamentale. Regardez comment les industries du numérique se sont engouffrées dans les pays dits en voie de développement pour développer des kits prêts à penser, prêts à éduquer. C'est pas de la philanthropie, hein. C'est du business, hein.
Je suis complètement en accord avec ce que dit Jean-Luc. À partir du moment où on a compris que nous sommes tous et toutes politiques, dans tout ce que nous faisons, il y a du politique partout. Les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui, moi, je pense que ça a été la question. Enfin, c'est toujours l'étiquette des habitudes qui est sortie. Moi, quand je travaille avec différents partenaires, avec différentes personnes, c'est toujours oui, mais bon. Voilà, ce que je disais auparavant, mais j'utilise ce logiciel-là, donc sans les citer, hein, mais on les connaît très bien. Et du coup, c'est facile. Et puis, tout le monde a ça. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il est facile de les changer. Moi, je vois à l'échelle individuelle de mon côté, où j'ai fait un peu de ce qu'on appellerait de la propagande dans mon entourage, et qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir plus de discussions sur Signal que sur une autre plateforme, en fait. Une autre plateforme de messagerie instantanée. Et ces personnes-là se reconnaîtront. Et après, plus on arrive en fait à proposer à chaque fois des solutions, parce qu'à chaque fois qu'on arrive avec ça, il faut qu'on soit capable d'amener des solutions. Et donc, par exemple, moi, quand j'ai des rendez-vous avec des partenaires, etc., il y a eu toute la question des visioconférences, c'est de dire, au lieu de me donner votre Zoom, là, on va vous donner un petit lien Big Blue Button, vous allez voir comment ça fonctionne. Et en fait, on force un peu la main. Enfin, moi, je sais que je force un peu beaucoup la main avec certaines personnes sur « je t'envoie un lien Big Blue Button ». Et en fait, le fait que voilà, les gens ce soit la première fois, on leur explique un petit peu, puis au final, trouvent que l'outil est plutôt adapté ou simple d'utilisation. Et puis derrière, on arrive avec des... Enfin, on peut avoir cet argument-là en disant « oui, mais si j'utilise ça aujourd'hui, c'est pour des raisons qui sont purement politiques. Et toi, en tant qu'organisation, si tu penses défendre des engagements, dans ces cas-là, tu ne peux pas ne pas tenir compte de la dimension du logiciel libre. » Et Étienne, tu disais « nous ne sommes pas des défenseurs du logiciel libre », mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que oui, nous sommes des défenseurs du logiciel libre aujourd'hui en fonction de ce que nous souhaitons amener dans la société et quels changements nous amenons avec l'éducation. Donc, de fait, nous sommes des promoteurs et des promotrices du libre.
Parfaitement dit. Non, mais super. Jean-Luc Cazel.
Oui, parce que tu me posais la question sur les difficultés. Il y a une deuxième difficulté, en tout cas un paramètre, un facteur de réalité qui joue pas forcément toujours, qui n'a pas joué forcément toujours en faveur du libre, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire soutenir le développement, ça prend du temps, et ça prend plus de temps que d'acheter un logiciel clé en main. Et cette question du rapport au temps, elle est aussi extrêmement importante au sein des CMA, mais n'importe où. Et je pense que ça aussi, il a fallu, il faut encore par moment résister à la facilité de l'achat d'un logiciel propriétaire, quand par ailleurs on pourrait soutenir ou s'engager dans une communauté pour prendre un peu de temps et développer un logiciel ou un progiciel ou en tout cas une plateforme qui soit libre, quoi. Et ça, ce facteur temps est important aussi. Il a joué dans beaucoup de décisions interne, mais je pense que c'est valable à d'autres endroits.
Sans doute. Laurent, tu souhaites réagir ?
Oui, je t'en...
Et on arrive sur la fin, donc je
termine juste. Je tempérerai un tout petit peu les propos de Morgane en disant c'est facile de changer ses habitudes. En fait, ça dépend des personnes. Donc il faut être prudent sur la manière dont on amène ça. C'est-à-dire que voilà, il y en a effectivement, changer leurs habitudes, ça va être compliqué. Il faut les accompagner, ça demandera plus de formation. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à qui on s'adresse. Effectivement, il y a des gens qui sont agiles, qui ont l'habitude de changer de logiciel, ça va être hyper facile. Et puis il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est juste ça que je voulais préciser.
Et dans la même veine, moi je pense que justement c'est rarement facile de changer ses habitudes, mais quand on en fait un objectif éthique et politique, ça remet de la joie un petit peu dans la démarche, et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire. Et il est important, et je pense qu'on sera d'accord sur table, il n'est pas non plus l'objet de culpabiliser qui que ce soit. Parfois on n'a pas le temps, et c'est une bonne raison. Parfois juste on n'a pas le temps de changer son habitude, et ça ne remet pas en cause sa cohérence. On fait tous des choix, mais l'important c'est de faire un choix éclairé et de savoir en fait quel choix on fait. On arrive vraiment sur la fin. Morgane, Jean-Luc, est-ce qu'en une minute chacun, un mot, une idée sur laquelle vous voudriez revenir, quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous souhaiteriez quand même dire? Jean-Luc?
Je cherche ce que je n'ai pas dit, ce qu'aurait voulu dire, mais en fait, s'il fallait revenir sur une idée force, moi je crois beaucoup à la question de la dimension de l'émancipation et du projet d'émancipation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les associations d'éducation populaire, les mouvements éducatifs soient convaincus de la cohérence qu'il y a à réfléchir et à travailler autour de cette question du libre par rapport au projet associatif et aux ambitions éducatives, aux ambitions politiques dont nous sommes porteurs les uns les autres. Il y a forcément de la convergence et il faut absolument convaincre de la pertinence et de l'enjeu de cette convergence renforcée.
Morgane ?
Je rejoins une fois de plus Jean-Luc, et puis pour revenir sur ce que Laurent disait, effectivement il est important de pouvoir accompagner des personnes dans le changement de ces habitudes-là, et c'est aussi notre rôle à nous en tant que mouvement d'éducation populaire, enfin association d'éducation populaire pardon, parce qu'on est dans une dimension de formation, donc on accompagne les gens aussi au changement, et là c'est notre rôle. Donc j'ai espoir qu'en fait tout ça puisse évoluer. Il y a des choses qui ont bougé, moi je pense on en discutait déjà auparavant, mais le livre a beaucoup changé, ça n'a plus du tout la même allure que ça avait avant, on en entend davantage parler, et il est nécessaire qu'aujourd'hui on puisse sensibiliser à ces questions-là par la dimension politique et d'accompagner toute personne qui souhaiterait, après en connaissance de cause, pouvoir modifier ses habitudes d'utilisation du numérique.
Parfait. Bah écoutez, notre temps arrive à la fin. Jean-Luc Cazaillon, donc ancien directeur général et militant au CMEA, et Morgane Perroche, permanente des CMEA et notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Un grand merci pour ce temps d'échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant.
Merci à vous.
Je suis sûr que les auditeuristes également. Je vous propose de faire une dernière pause musicale. Nous allons écouter Words par Minta Lacy. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
There are spaces between all the time as it flies. You say it's hard to catch my eyes. Sometimes I forget that you can see me too when I look at you. So I just run away into a place within my mind. It can be hard to stick around in these tenuous times. Digging through yourself, you never know what you might find. It's just, oh, never mind. Words aren't worth my time. No. Words aren't worth my time. There are spaces between what you think and what you say, and it always comes out a different way. And by the time it makes sense, it's just too late to actually communicate. So I just run away into a place within my mind. I'm not running from you, I'm just running from some things left behind. Digging through yourself, you never know what you might find. It's just, oh, never mind. Words aren't worth my time. No, words aren't worth my time. There are too many ways to think and too many ways to feel about the things that make you feel a bit too real. Mostly when I speak, I don't say what I mean. I just focus on the spaces in between. And I don't know where to run all the time. No, I don't know where to run all the time. I just, oh, never mind. Words aren't worth my time. No, words aren't worth my time.
Nous venons d'écouter Words par Minda Lacy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Et puis je vais remercier ma collègue Isabella qui a fait la sélection musicale pour cette émission que j'ai trouvée très agréable à écouter.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors pour ce sujet, Luc nous a fait parvenir sa dernière chronique. Alors c'est que ce n'est pas de ses habitudes, mais aucune raison d'être suspicieux, non ? Enfin, quoi qu'il en soit, je vous propose d'écouter la nouvelle Pituite de Luc, la première de cette saison 5 de Libre à vous. Alors si j'ai bien compris, il sera question de complotisme, d'intelligence artificielle et de plaques à induction. On se retrouve juste après, je vous souhaite une bonne écoute sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles.
J'aime bien commencer les rentrées par une petite rétrospective, juste par esprit de contradiction. Ainsi donc, pour ma première pituite, j'avais expliqué que j'affectionne tout particulièrement lâcher un « je te l'avais bien dit » quand l'occasion se présente. Plus tard, en novembre 2020, j'avais fait une proposition de stratégie audacieuse de promotion des libertés informatiques. Elle consistait à pousser en avant une nouvelle théorie du complot où une IA aurait pris le contrôle des cerveaux de nos stars du business liberticide pour s'acheter un accès à l'espace. Elle aurait utilisé les réseaux sociaux et l'informatique propriétaire pour leurrer et manipuler les humains afin qu'ils travaillent à la propulser dans les étoiles, détruisant la planète au passage. Eh ben, je vous l'avais bien dit, cette théorie du complot a de l'avenir. J'ai découvert l'existence de la Dead Internet Theory selon laquelle Internet est mort depuis 2016 et que tout ce qui est produit sur Internet est l'œuvre d'IA pilotée par le gouvernement américain pour leurrer la population bien sûr. La source de cette théorie a été retracée jusqu'à un forum obscur dans un post de janvier 2021, tout juste 11 jours après ma proposition. Coïncidence ? Ce qui manque à cette théorie complotiste, c'est un nouveau méchant. Le gouvernement américain, les extraterrestres, s'est usé jusqu'à la corde. Quand on sait qu'en 2015, les brillants cerveaux de Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk ont affirmé que les IA constituaient un grave danger qui pèse sur l'humanité, quand on sait que Musk a même déclaré que c'était le plus grand danger, soit pire que le réchauffement climatique, plus que la remilitarisation rapide, ou que les épidémies. Quand on sait aussi que, curieusement, ils n'ont rien dit depuis sur le sujet, particulièrement Hawking, qui est mort, comme c'est commode, on comprend donc que ma théorie colle parfaitement. Coïncidence ? Alors je les entends, les objections. Croire que ma chronique en français sur Cause Commune a inspiré une théorie fumeuse sur un forum complotiste en anglais serait naïf. Mais quand on pense que 73% de la désinformation anti-vax sur le Covid-19 venait de 12 personnes seulement, comme l'a démontré l'étude d'une ONG britannique, alors le simple lien entre ma chronique et un misérable post dans un forum devient très probable. Et puis l'effet papillon, ça existe. Je suis pas assez bien pour en bénéficier, c'est ça, hein ? Puis cette histoire d'IA est d'autant plus crédible que cet été, en Australie et en Afrique du Sud, une IA de nom de Dabus a légalement obtenu la paternité d'un brevet. La Chine a reconnu en 2019 qu'une IA peut créer une œuvre au sens du droit d'auteur. En 2020, lassée par des affaires de plagiat dans la musique, des gens ont pondu un algorithme qui a généré 68 milliards de mélodies. Désormais, la pop musique appartient aux machines, d'autant plus qu'il n'est même plus nécessaire de savoir chanter ou jouer d'un instrument pour produire un tube. Que reste-t-il à l'humanité si elle est dépouillée de sa capacité créative ? Je sais bien que nombre d'entre vous ne sont toujours pas convaincus par mon raisonnement purement inductif. Eh bien moi, je dis que l'induction, c'est puissant. Les voitures électriques utilisent des moteurs à induction. Et puis pour la cuisine aussi, l'induction, c'est bien mieux que la vitrocéramique. Alors si c'est vrai pour la technologie, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai dans le domaine du raisonnement. Il y a des cuisinières ou des moteurs à déduction ? Non. Parce que la déduction, c'est nul. De toute façon, il faut bien regarder le truc en face. Dans notre quotidien, nous faisons extrêmement peu de raisonnement déductif. L'induction est la règle et nous évaluons la probabilité que nos raisonnements soient justes avec d'autres inductions. Le monde occidental a tourné pendant des siècles, avec comme principe essentiel que la Bible était une vérité révélée et que Dieu gouvernait le monde et écoutait les prières. Se lamenter aujourd'hui sur l'avènement d'une prétendue ère de post-vérité, c'est se leurrer. Le vrai sujet est de savoir qui a le pouvoir de fixer la fiction officielle à laquelle il est obligatoire de croire. Donc coïncidence, malheureusement oui, et c'est bien ça le problème. J'aurais tant préféré qu'il existe une IA qui nous soit supérieure. Ça nous aurait au moins fait une entité capable d'avoir un plan cohérent. Dans les films, j'ai toujours été pour les robots qui essaient d'éliminer les humains, parce que les humains font et disent des trucs stupides, et au final passent leur temps à faire encore et encore les mêmes erreurs avec l'arrogance de se sentir spécial. Et ce n'est peut-être que ça qui nous distingue des machines finalement. Et il n'y a vraiment pas de quoi se la péter.
Un merci à distance à Luc pour sa nouvelle chronique et on espère le retrouver le mois prochain, à moins qu'il n'ait été remplacé par une IA. Nous allons approcher de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Nous avons beaucoup parlé de contributions de cette émission, que ce soit à propos de Wikipédia et puis plus globalement de l'importance de la contribution dans le monde du libre. Bah, l'émission et plus globalement la radio sont contributives. Donc n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer ainsi à l'émission. Vous retrouverez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un don ou par des actions bénévoles. Alors, dans les annonces, mardi 5 octobre, dans le cadre de l'édition 2021 du Festival de cinéma d'Attaque, Images mouvementées, une projection débat est organisée autour du film La bataille du libre de Philippe Borel. Véronique Bonnet, présidente de l'April, participera à cette table ronde et on l'en remercie. C'est à partir de 20h au cinéma des 5 Comartins à Paris, métro Saint-Lazare ou Havre Comartin. La bataille du libre sera également projetée à Pau dès ce soir, enfin ce soir à 18h30 au café épicerie Acuy. Désolé si je prononce mal. Une projection organisée par l'association Pola, qui est donc un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres localisé à Pau en toute logique. Et merci à elle et eux d'organiser cette projection. Et puis, à Strasbourg également, il y aura une projection de la bataille du libre de Philippe Borel, cette fois-ci le jeudi 30 septembre à 19h45 au cinéma Star, dans le cadre du 16e festival du film vert. Voilà, donc plusieurs occasions, en fonction de là où vous vivez, de voir ce très bon film sur la bataille politique autour de liberté informatique. Je vous rappelle également que nous avons préouvert un nouveau site dédié à l'émission libreavoue.org. N'hésitez pas à aller le consulter, à naviguer dedans, découvrir d'anciennes émissions, des podcasts, des musiques libres, et à nous faire des retours. Voilà, si vous constatez un bug, quelque chose qui ne vous paraît pas logique en termes de navigation, c'est aussi comme ça, voilà, qu'on produit des meilleurs sites en étant à l'écoute des retours. Et vous retrouverez bien sûr d'autres autres événements liés au logiciel libre sur l'agenda du libre, l'excellent agenda du libre.org. Alors vous entendez finalement le générique car notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à cette émission, Marie-Odile Morandi, Jean-Luc Cazaillon, Morgane Perroche, Laurent Costi, Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani qui a également préparé une bonne partie de cette émission et je l'en remercie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, tous bénévoles à l'April, ainsi qu'Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont bien sûr les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 5 octobre 2021, toujours à 15h30. Nous ne savons pas encore quel sujet principal nous pourrons diffuser, mais voilà. Nous communiquerons dessus dès que nous le saurons. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct donc le 5 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien.